toutes les infamies attribuées aux Templiers.
La stratégie des Jésuites nous devint claire lorsque nous découvrîmes le père Baruel. Celui-ci, entre 1797 et 1798, en réaction à la Révolution française, écrit ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Un véritable roman-feuilleton qui débute la coïncidence avec les Templiers. Lesquels, après le bûcher de Molay, se transforment en société secrète, afin de détruire monarchie et papauté et de créer une république mondiale. Au XVIIIe siècle, ils mettent la main sur la franc-maçonnerie qui devient leur instrument. En 1763, ils fondent une académie littéraire composée de Voltaire, Turgot, Condorcet, Diderot et d'Alembert, qui se réunit chez le baron d'Holbach, et complote que je te complote, en 1776, ils font naître les Jacobins. Qui d'ailleurs sont des marionnettes aux mains des vrais chefs, les Illuminés de Bavière, régicides par vocation. Il s'agit bien de voitures à la casse. Après avoir coupé la maçonnerie en deux avec l'aide de Ramsay, les jésuites la réunissaient de nouveau pour la battre de front. Le livre de Baruel avait fait un certain effet, à telle enseigne que dans les archives nationales on découvre au moins deux rapports de police demandés par Napoléon sur les sectes clandestines. Ces rapports, un certain Charles de Berckheim les rédige, lequel, comme font tous les services secrets qui vont piocher leurs renseignements réservés là où ils ont déjà été publiés, ne trouve rien de mieux à faire que de copier bêtement d'abord le livre du marquis de Luchet, puis celui de Baruel. Devant ces terrifiantes descriptions des Illuminés et cette dénonciation pénétrante d'un directoire de supérieurs inconnus capables de dominer le monde, Napoléon n'a pas d'hésitation. Il décide de devenir des leurs. Il fait nommer son frère Joseph grand maître du Grand Orient et lui-même, à en croire de nombreuses sources, il prend des contacts avec la maçonnerie. Et à en croire d'autres, il va jusqu'à devenir un très haut dignitaire, sans qu'on sache clairement de quel rite, peut-être par prudence de tous. Ce que Napoléon savait, nous ne le savions pas, mais nous n'oublions pas qu'il avait passé pas mal de temps en Égypte. Et qui sait avec quel sage il avait parlé à l'ombre des pyramides. Et là, même un enfant comprenait que les fameux 40 siècles qui le contemplaient étaient une claire allusion à la tradition hermétique. Mais il devait en savoir long parce qu'en 1806, il avait convoqué une assemblée de juifs français. Les raisons officielles étaient banales, tentative de réduire l'usure, de s'assurer la fidélité de la minorité israélite, de trouver de nouveaux bailleurs de fonds. Mais cela n'explique pas pourquoi il avait décidé d'appeler cette assemblée « Grand Sanhédrin », évoquant l'idée d'un directoire de supérieurs, plus ou moins inconnu. En vérité, le corse rusé avait repéré les représentants de l'aile hiérosolimitaine et il cherchait à réunir les différents groupes dispersés. Ce n'est pas un hasard si en 1808, les troupes du maréchal Ney sont à Tomar. Vous saisissez le rapport. On n'est ici que pour saisir des rapports. Maintenant, sur le point de battre l'Angleterre, Napoléon a en main presque tous les centres européens et à travers les juifs français, les hiérosolimitains. Qui lui manque-t-il encore?
Les policiers?
Précisément. Et nous n'avons pas encore décidé où ils se sont fourrés, mais Napoléon nous le suggère, qui va les chercher où ils sont, en Russie.
Bloqué depuis des siècles dans l'ère slave, il était normal que les policiers se fussent réorganisés sous les différentes étiquettes des groupes mystiques russes. Un des conseillers influents d'Alexandre Ier était le prince Galitzine, lié à certaines sectes d'inspiration martiniste. Et qui trouvions-nous en Russie, avec une bonne douzaine d'années d'avance sur Napoléon, plénipotentiaire des Savoies, en train de nouer des liens avec des cénacles mystiques de Saint-Pétersbourg, Demestre. À ce moment-là, celui-ci se méfiait de toute organisation d'illuminés qui, à ses yeux, ne faisait qu'un avec les hommes des Lumières, responsable du bain de sang de la Révolution. En effet, c'est à cette période qu'il parlait, répétant presque à la lettre Baruel, d'une secte satanique qui voulait conquérir le monde, et il pensait probablement à Napoléon. Si donc notre grand réactionnaire se proposait de séduire les groupes martinistes, c'est parce qu'il avait eu la clairvoyante intuition que ces derniers, tout en s'inspirant des mêmes sources que le néo-templarisme français et allemand, étaient cependant l'expression de l'unique groupe non encore corrompu par la pensée occidentale, les policiens. Pourtant, à ce qu'il paraît, le plan de Demestre n'avait pas réussi. En 1816, les jésuites sont expulsés de Saint-Pétersbourg et Demestre s'en retourne à Turin.
« D'accord, disait Diotalévi, nous avons retrouvé les policiers.
Faisons sortir de scène Napoléon qui n'est évidemment pas parvenu à ses fins, sinon, depuis Sainte-Hélène, d'un claquement de doigts, il aurait fait trembler ses adversaires. Qu'est-ce qui arrive à présent au milieu de tous ces gens? Moi, j'en perds la tête.
La moitié d'entre eux l'avait déjà perdu, disait Belbot.